Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.
Oui, en direct.
Les gaz sont lâchés, ça sent plus les gaz lacrymogènes.
Reculez !
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
La réforme, oui, la chienlit, non.
Quatrième épisode de notre semaine consacrée aux médias en 1968. Hier, René Bachmann nous racontait comment les grands quotidiens et les grands hebdomadaires ont réagi face au mouvement étudiant de ce 22 mars, il y a pile 50 ans. Ce matin, presse écrite encore. Dans les années qui ont suivi, on assiste à un incroyable foisonnement d'encre et de papier. Des journaux, des fanzines, des magazines, des feuilles de combat naissent de toutes parts. Les uns poursuivent le combat, justement. Les autres ouvrent les kiosques français à des influences hippie venu des États-Unis avec une foule de nouveaux sujets que nos journalistes jusqu'alors ne traitaient pas, en tout cas ne traitaient pas comme ça.
L'Instant M.
Vive la solidarité des travailleurs,
Sonia De Villers,
des étudiants et des enseignants
sur France Inter.
Bonjour Laurent Martin.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Paris 3. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire des cultures et des censures médiatiques. On retrouve votre signature notamment dans cette grande anthologie parue l'année dernière pour les 100 ans du canard enchaîné. Donc on va parler ensemble de tout ce que 68 a engendré et suscité dans la presse écrite. Laurent Martin, je me suis demandé si dans l'histoire de la presse contemporaine en France, il n'y avait pas deux dates cruciales. 1944 et 1968. Est-ce que finalement, ce sont deux tournants qu'on pourrait presque mettre au même niveau ?
Oui, au sens où effectivement, ce sont des dates qui ont marqué l'imaginaire et en partie les pratiques de la presse française. En réalité, ce parallèle me semble un peu artificiel dans la mesure où, effectivement, en 44, là, il y a un vrai renouvellement des équipes, des titres. Il y a une bonne partie de la presse qui disparaît,
qui est
remplacée par de nouvelles équipes,
toute
souvent issues de la
résistance. Toute la presse qu'on a accusée de collaboration.
Voilà, compromise dans la collaboration, et puis aussi des épurations des journalistes, avec voilà, des procès qui ont pu, dans certains cas, aboutir à des peines de prison, voire des exécutions. Donc là, on est tout à fait dans un autre registre en 68. Il y a un renouvellement important de la presse au sens où il y a l'apparition de nouvelles feuilles, effectivement, en grand nombre, mais beaucoup de ces titres, en fait, apparaissent a posteriori, une fois que les événements ont eu lieu, en l'occurrence. Et ils apparaissent, en fait, essentiellement pour prolonger ce mouvement de 68. Mais, au fond, la presse de 68, à strictement parler, est assez rare, en fait. On ne peut guère parler que de la tribune du 22 mars pour le mouvement du 22 mars à Nanterre. Mm-hmm. On peut parler du journal Action, qui a été un journal, effectivement, très important des événements de mai 68. Mais après, tous les titres dont on va parler, en fait, sont postérieurs, voire très postérieurs. Pour certains, arrivent 2, 3, 4 ans plus tard.
Alors, commençons peut-être par ceux qui en portent le nom, à savoir les cahiers de mai qui sont parus, eux, en 68. Qu'est-ce qu'on appelle l'enquête ouvrière, Laurent Martin ?
Alors, les cahiers de mai, c'est un journal qui est fondé par Daniel Anselme, qui est un ancien communiste en rupture de banc, comme beaucoup d'ailleurs des fondateurs de cette presse nouvelle. En plus de ça, Daniel Anselme est un romancier et un ancien FTP. Alors ça, c'est important parce qu'il y a l'imaginaire aussi de la presse résistante, l'idée d'une presse clandestine, une presse qui lutte contre le pouvoir ou contre la presse installée, etc. Alors, les cahiers de mai ne sont pas du tout clandestins. C'est une feuille qui a pour vocation essentiellement de donner la parole aux ouvriers, de relayer leurs paroles et de faire, d'ailleurs, c'est l'évolution des cahiers de mai a été vraiment dans ce sens-là, de faire de ces cahiers des cahiers de revendication. C'est vraiment un journal qui veut constituer une sorte de feuille de liaison entre les comités de base qui sont installés dans les usines. Bon, c'est comme beaucoup de ces feuilles de 68 ou post-68, faute de ressources, mais aussi faute de volonté sans doute militante. Au bout d'un moment, cette feuille a disparu.
Alors, essayons de nous y retrouver dans les différentes lignes éditoriales, mais aussi dans les différents ancrages idéologiques. On vient de parler des cahiers de mai, parlons de La Cause du Peuple. Alors, La Cause du Peuple, c'est un journal créé par Georges Sand en 1848, autre époque de révolution parisienne. C'était trois petits numéros tombés dans l'oubli. Et puis, 120 ans plus tard, en 1968, La Cause du Peuple renaît. Je vous propose une archive du 26 juin 1970. Jean-Paul Sartre est arrêté dans la rue, les exemplaires en main.
Eh bien, vous voyez, nous sommes arrêtés parce que nous vendons un journal qui n'est pas interdit, car le président de la 17e chambre correctionnelle a refusé de l'interdire, qui n'a rien de scandaleux pour le gouvernement, puisqu'il ne lit même pas avant d'interdire.
Jean-Paul Sartre, en 1970, arrêté avec La Cause du Peuple à la main. Ce n'est pas Jean-Paul Sartre qui va faire renaître La Cause du Peuple de ses cendres, c'est Roland Castro, architecte, et il veut en faire un organe de la gauche prolétarienne.
Oui, alors la cause du peuple, c'est effectivement une émanation de la gauche prolétarienne. C'est une émanation aussi des jeunesses communistes marxistes-léninistes. Ce sont les maoïstes, en fait. Ce sont les maoïstes, tendance très doctrinale, hein, où il s'agit essentiellement de constituer une prise de conscience politique chez les masses dans l'optique d'une révolution. Hein. Mm-hmm. Donc là, on est bien dans un organe de combat. On n'est pas dans les questions de contre-culture, véritablement. On n'est pas du côté de la révolution sexuelle, de la drogue, du rock'n'roll, etc. C'est pas actuel.
Pas du tout.
C'est l'inverse exact d'actuel. Et c'est effectivement un journal qui a été extrêmement poursuivi. Ses directeurs ont été arrêtés. Les gens qui vendaient le journal dans la rue ont été arrêtés, etc.
C'est un journal qui sera un soutien inconditionnel à toute forme de révolte, de grève, d'occupation d'usine, de séquestration. Il va subir les foudres systématiques, finalement, des autorités publiques.
Oui, parce qu'il prône quasiment la lutte armée. Enfin, c'est vraiment un organe de combat et un organe, encore une fois, qui cherche avant tout à représenter, disons, une sensibilité extrêmement révolutionnaire au sein de la presse française.
Mais alors, en même temps, Jean-Paul Sartre va constituer une forme de bouclier, et de bouclier humain, intellectuel, et sa notoriété va faire écran, puisque le général de Gaulle aurait dit: on ne met pas Voltaire en prison.
Oui, oui. Sartre, Clavel, ils sont quelques-uns à avoir...
Althusser. À apporter leur caution.
Absolument, à avoir apporté leur caution, à la fois morale et financière. Bon, effectivement, on rejoue là l'intellectuel à la française, hein, c'est-à-dire l'écrivain, le philosophe qui intervient dans la cité au nom de son travail philosophique, et avec l'idée, effectivement, de protéger ces journaux en mettant en avant leur réputation dans le monde intellectuel.
C'est ça, et dans le monde en général, ce sont des réputation internationale déjà à l'époque. Alors justement, Jean-Paul Sartre permet de faire le lien avec Libération, et c'est très intéressant. Le Jean-Paul Sartre de la cause du peuple et le Jean-Paul Sartre de Libération, on va y venir. 4 janvier 1973, Assemblée Générale, présentation de Libé à la presse.
Des militants venus de divers horizons et des journalistes ont décidé de se battre pour que le peuple ait un journal ouvert, qui permettra dans le domaine de l'information la démocratie directe. Créer un quotidien national de ce genre à notre époque relève, vous le savez, apparemment de l'utopie. Ce pari, le pouvoir fera tout pour qu'il soit perdu. Si vous nous aidez à faire tout pour que Libération sorte et soit une réussite, le vieux monde de la presse datera de 1972.
Serge July présente Libération à la presse. Laurent Martin, qu'est-ce qui s'est passé justement dans les 5 ans entre la naissance de la cause du peuple et la naissance de Libération ?
Alors, il y a encore une origine maoïste à cette affaire, puisque c'est la gauche prolétarienne qui en grande partie est à l'origine de Libération. Mais avant le journal Libération, il y a l'agence de presse Libération. Oui. C'est-à-dire l'idée que pour résister à la presse aux ordres, comme on dit, hein, qu'elle soit ou non proche du pouvoir d'ailleurs, parce que c'est pas seulement la presse de droite ou qui soutient le gouvernement, c'est aussi la presse conventionnelle de gauche qui peut éventuellement être visée. Il faut se doter d'une agence de presse autonome, indépendante même, qui relaie les informations qui sont importantes pour la mobilisation des masses, et notamment pour la mobilisation de cette fraction révolutionnaire qu'est la gauche prolétarienne. Donc effectivement, l'idée, c'est, à partir de cette agence de presse, de constituer un journal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce journal, Libération, il fait un peu la synthèse entre une presse très politisée, doctrinaire, qui pratique volontiers le terrorisme idéologique, et en même temps, très vite et tout de suite d'ailleurs, il va y avoir une composante plutôt contre-culturel, quand Philippe Gavi, par exemple, arrive à Libération, c'est vraiment une sensibilité très différente de la presse très
Philippe
politisée.
Philippe Gavi, on peut le dire aujourd'hui, on peut le reconnaître, qui sera le pionnier du journalisme média.
Ouais, absolument.
Voilà, donc je suis une des nombreuses héritières, mais c'est lui le premier qui a ouvert une rubrique média dans un quotidien généraliste.
Et Serge July va réussir le tour de force, ça sera pas sans mal d'ailleurs, de fédérer toutes ces sensibilités extrêmement différentes, qui vont d'ailleurs être renforcées aussi par l'arrivée de tout un tas de journalistes, soit chevronnés, soit qui ont fait leur classe dans les journaux de 68 ou après 68. Alors, Serge July, au départ, est un émissaire, c'est-à-dire un sous-marin, mais il n'est pas du tout sous-marin, il est tout à fait officiellement là en tant que représentant de la gauche prolétarienne, hein, donc on l'oublie parfois, mais July est un ancien de la GP. Lui, son rêve, c'est de faire un François Rouge, un journal populaire d'extrême gauche. Et donc, on est à la fois dans un modèle de journal professionnel. Ce modèle va de plus en plus prendre le pas sur l'autre, et un modèle, disons, de journal plutôt militant, très militant même au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on s'en souvient peut-être pas, mais Libération, on ne signait pas les articles. Mm-hmm. Il n'y avait pas de hiérarchie dans le journal. Mm-hmm. Tout le monde était payé de la même façon. Tout le monde était invité à participer aussi bien au travail intellectuel que manuel. Donc on est bien dans une feuille typique de ces années 68. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution du journal et des crises internes du journal. Le journal a quand même cessé deux fois sa parution en 74-81, et pour renaître sur un nouveau modèle, et un nouveau modèle de plus en plus proche finalement d'un journal classique, en tout cas d'un journal professionnel où on fait attention à la syntaxe, aux fautes d'orthographe, à une certaine vérité des faits qui au départ n'était absolument pas la préoccupation, il faut bien le dire, des dirigeants du journal. Il n'y avait pas d'objectivité, il n'y avait pas de vérité, etc. La seule vérité qui importait, c'était la vérité militante. Et donc, on quitte ce modèle initial pour aller vers un journal de plus en plus conventionnel, normal, ce qui va d'ailleurs provoquer le départ et les crises.
Beaucoup de désaffection. Beaucoup de désaffection. Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant avec Libération, c'est ce que vous disiez au début de votre propos, c'est cette façon qu'a le titre de croiser à la fois un militantisme politique pur et dur, et de l'autre côté des aspirations culturelles dont on se demande bien finalement comment elles cohabitent avec le militantisme politique. Je vous fais écouter une autre archive, c'est Jean-François Bizot et Jean-Pierre Lantin, deux des fondateurs du magazine Actuel.
Actuel, c'est tout ce qui concerne un mec de 20 ans qui réfléchit sur ce que vont être les 20 prochaines années de sa vie. Ça veut pas dire qu'on arrive à tout traiter, c'est impossible, mais on essaie de traiter des choses et de surprendre les gens, et on pense que chaque numéro doit provoquer un effet de surprise, alors que si tu veux d'autres journaux, on sait toujours ce qu'on trouvera dedans.
On en a marre des journaux spécialisés, tu as un journal politique, et puis tu as un journal musical, et puis etc.
En fait, Laurent Martin, la question pour ma génération, et elle n'est pas si aisée finalement à résoudre, c'est comment les héritiers d'une gauche de combat font avec une influence américaine, font avec le sexe, la drogue et le rock'n'roll. Parce que quand on relit les propos de Jean-François Bizot à l'époque, il dit finalement les gauchistes se méfiaient de nous, les gauchistes nous détestaient.
Mmh. Alors pas tous les gauchistes, hein. Il y avait quand même des Mao justement qui participaient à la rédaction d'Actuel, mais comme le dit Bizot, ils participaient de façon un peu honteuse. Ils ne voulaient pas que ça se sache trop auprès de leurs camarades.
Mais c'est ça qu'il faut expliquer à ma génération. Ouais. C'est qu'il n'y avait pas dans cette gauche militante cette forme d'humour, de décalage permanent qu'on va retrouver petit à petit dans Libération et qui fait partie des fondements d'Actuel.
Je pense que c'est la tension entre, disons, un pôle plutôt politique dirigé vers la révolution ou vers la conscientisation des masses, etc. Et puis un pôle qui est plutôt tourné effectivement vers les contre-cultures, y compris américaines. En même temps, cette opposition, elle n'est pas complètement binaire ou frontale. C'est-à-dire qu'il y a des gens effectivement qui participent un peu des deux univers. Regardez quelqu'un comme Guy Hockenheim, par exemple, qui notamment travaille dans un journal qui s'appelle Tout. Bon, Tout, c'est une émanation des Mao, hein, c'est une émanation de Vive la Révolution, justement, on retrouve Castro. Alors, il y a donc des articles extrêmement doctrinaires, ouvriéristes, révolutionnaires, etc. Et en même temps, vous avez à côté des articles, parfois pas signés par les mêmes, ou pas signés en l'occurrence, sur la musique rock, la drogue, et sur la prise de parole et la prise de conscience par toute une série de gens qui n'étaient pas forcément justement politisés précisément, de leur capacité à dire je, de leur capacité à assumer une subjectivité, de leur capacité à assumer des identités sexuelles, politiques, musicales, etc.
Et ça va tout changer dans la presse.
Et ça va tout changer.
Tout changer.
C'est
dans
ça en fait qui est vraiment l'héritage de 68.
Alors, si on veut redire un mot d'Actuel, Actuel démarre comme un fanzine de jazz en fait avant 68.
Avant 68, c'est
en 67. Et sera repris en 70.
C'est des clous, hein, qui font ça comme un fanzine pour le free jazz, qui est repris et racheté en fait par
Bernard
Bizot.
Kouchner, Patrick Rambaud, Jean-François Bizot qui les rejoindra après à partir de 70. Et ça va devenir un magazine absolument fondateur pour toute une presse qui est d'ailleurs régulièrement citée en exemple. Hein, je veux dire, ne serait-ce qu'il y a 3 ans lorsque Society sort en kiosque, on se retrouve.
Tout ça dérive d'Actuel. Alors, Actuel lui-même dérive d'un certain nombre de modèles américains, mais Bizot voulait en faire, d'ailleurs c'était le sous-titre à un moment d'Actuel, le magazine des arts contemporains. On voit bien la distance par rapport à des journaux qui sont vraiment des journaux de doctrine.
Je voudrais qu'on entende Jean Edernalier, celui qui a fondé l'Idiot International.
En mai 68, je me suis trouvé de plein pied avec les étudiants et avec le mouvement de mai 68. Mais je n'ai jamais, à la différence des gens de 68, considéré qu'il s'agissait d'une révolution. C'est-à-dire que je pense que mai 68 a l'image de la plupart des révolutions ratées, c'est-à-dire que la France n'a jamais produit, comme toute révolution ratée, que des romantismes réussis.
Et nous voici déjà dans un discours post-68, forcément dans un discours désenchanté. L'idiot international, on l'a sans doute oublié, a eu une toute petite vie après 68. Ensuite, l'idiot est mort. Ensuite, l'idiot a ressuscité. Si ça m'intéresse, c'est parce que l'idiot international, c'est sans doute un symbole de la rupture des clivages politiques, de la droite, de la gauche, des rouges et des bruns qui vont se réconcilier dans cette feuille de chou très virulente, très drôle et très foutraque également, et où des gens de tous horizons et des horizons très contradictoires vont se retrouver par haine, notamment de François Mitterrand.
Oui, oui, c'est vrai. L'idiot international, alors, c'est un journal vraiment personnel, si je puis dire, individuel. C'est-à-dire que c'est Jean et Daniel Allier qui fondent ce journal. Et donc, c'est
mais
un
là,
projet.
Mais là, il y a quelque chose de 68, ce jeu qui d'un seul coup
projet très personnel
et qui prend la parole.
Voilà. Et en même temps, c'est un journal qui se veut véritablement un journal non seulement de synthèse, mais même de dépassement des clivages, justement.
Dès le début.
Mm-hmm. Des clivages politiques. Alors, c'est un journal gauchiste, avec des articles très, très politiques, mais qui veut dépasser, justement, les luttes picrocolines entre les trotskistes, les maoïstes, les différentes tendances au sein de ces divers groupes, les anards, etc. C'est un journal d'ailleurs qui revendique une sorte de filiation de Action, Cahier de Mai, L'Idiot International. Ça se veut comme ces journaux, des journaux qui ne sont pas des journaux attachés à une organisation proprement dite, mais qui sont des journaux qui veulent donner la parole véritablement à une diversité de sensibilité pour faire véritablement un journal qui s'adresse à tout le monde, en fait. Même si, en réalité, l'Union internationale, ça va tirer, je crois, dans les 40, 45 000 exemplaires, quelque chose comme ça, dans les années 70. Donc, c'est pas non plus un journal de masse. Mais c'est un journal qui veut effectivement dépasser ses clivages parce qu'il considère que finalement l'échec de 68 vient de ce que précisément chacun a voulu tirer la couverture à lui et faire la révolution pour lui seul. Alors, en réalité, ce que dit Edan Allier, c'est qu'il faut évidemment aller au-delà de cet romantisme de la révolution pour faire véritablement un journal qui soit en phase avec la révolution culturelle de son époque.
Et avec la révolution culturelle, voilà. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un journal qui finira par intégrer en son sein des bruns. Des fachos.
Oui, mais ça, c'est une évolution
beaucoup plus tardive.
Quand même.
Beaucoup plus tardive. Ouais. Mais est-ce que dans cette volonté de dépasser les clivages, il n'y avait pas là un basculement dans lequel, finalement, on vit aujourd'hui?
Oui, au sens où quand un journal veut être anticonformiste, il est anticonformiste en partie contre le pouvoir. Et quand le pouvoir est de gauche ou se réclame de la gauche ou se prétend être de gauche, effectivement, ça ouvre la porte, du coup, à des anticonformistes qui sont de droite ou d'extrême droite ou qui ne se situent pas très clairement sur l'échiquier politique, mais qui sont avant tout anti-système. Voilà, donc l'anticonformisme peut effectivement fédérer des gens qui se situent aussi bien à l'extrême gauche et à l'extrême droite du spectre politique, l'important étant d'être contre, en réalité.
Voilà. C'est ça, être contre. Merci Laurent Martin.
Merci à vous.
C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors, grand bien vous fasse.
Ce matin, les bienfaits éventuels de l'économie sociale et solidaire. On va se demander ce que c'est. Pas de standard ce matin, mais vous pouvez réagir sur l'appli France Inter et sur notre page Facebook. Et on reçoit un confrère, le voisin d'en face, Philippe Bertrand.
Salut à toi, Philippe Bertrand.